Bonsoir, vous êtes sur DU, Unité Radiophonique Mobile. Nous nous trouvons au Jardin des Plantes de Rouen pour l'exposition Flower Pictures, organisée par le FRAC Normandie-Rouen. Nous avons rencontré des jardiniers qui travaillent ici et leur avons demandé, à partir d'une sélection de photographies présentées dans l'exposition, de décrire ces images et de nous en parler. Nous retrouvons tout de suite Alain, Christophe, Jeanne-Marie, Sylvain, Pascal, Olivier, Camille, Céline et Christophe.
Hans-Peter Feldemann, Flower Picture.
Alors la série de trois, là, j'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'est la même artiste? J'aimerais bien savoir comment c'est fait, ça. Vraiment, une impression de carte postale fin des années 60, années 70, un petit truc en... Avant les images 3D, les premières... Je crois même qu'il y avait des images comme ça dans des cadeaux publicitaires pour certaines marques à une époque, quoi. Ouais, ça fait photo repeinte par-dessus. Et puis on a presque envie de mettre des lunettes pour les voir en relief. Elles sont presque en relief. Ça marque une époque, mais que j'ai connue. Donc.
Là vous avez le Narcisse qui est assez simple avec un fond bleu ciel, oui. Elle est jaune, c'est une fleur courante. Et ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas une variété hybridée parce qu'elle n'a pas de particularité comme celle qu'on peut avoir dans le jardin avec des pétales blanches, un cœur orange, elle est simple, c'est une œuvre simple. On doit avoir d'autres variétés, certainement on doit avoir les originaux comme ça que vous pouvez trouver, mais c'est facile à trouver ça. Bah déjà il y a un fond bleu ciel, alors moi j'aime bien le traditionnel, alors là on s'imagine qu'elle a été prise plus en bas et vers le ciel, c'est ce qu'elle m'évoque.
Ça va offrir pour les dames.
Oui, c'est le printemps, quoi. Début de l'éveil, de la fin de la dormance.
C'est la nature qui se réveille, c'est les gens qui vont commencer à s'épanouir, à retrouver le sourire parce que les beaux jours vont arriver. Enfin, ça reflète une saison, une période de l'année.
Narcissus, ça aussi, hein, ça évoque le printemps et première jonquille, hein. Bon, on connaît la chanson. Comment qui chante ça? Il me semble que c'est pas Hugo Frey. C'est la première fleur qui évoque le printemps en fait. Les premières jonquilles. Bon, après, je vais pas vous chanter la chanson, mais oui, c'est une chanson. Ouais.
Ça fait un peu image pour enfants, je trouve. Narcisse. C'est pas la plus jolie des narcisses. C'est peut-être même pas une narcisse, c'est peut-être plutôt une jonquille, ça non? Parce qu'en fait, ce qui détermine, là on le voit pas, en fait, par rapport au format, une jonquille c'est petit, c'est plus petit, quoi. Et puis c'est une fleur simple un peu de ce domaine-là, mais là ça serait peut-être quand même un narcisse, parce que la corolle est un peu découpée quand même.
Ah, les jonquilles, les narcisses, oui, alors là on est clairement de... Pratiquement je le verrais le long, on croirait un drapeau national d'un pays, là. On a vraiment... Ah, pareil, hein, ça pour orner les jardins, magnifique. Hein, moi, je m'amuse à les arracher systématiquement parce que j'enlève les bulbilles de façon à ce que les principaux grossissent et avoir toujours de grosses fleurs. Mais on peut les laisser en place, ça fleurit toujours aussi bien. Alors ça, pareil, un panel de couleurs peut-être moins importantes, mais par contre de formes qu'on n'avait pas avant. Bon, ça sent pas, ça c'est pas le problème. Mais c'est vrai que l'avantage... ça permet d'avoir dès très tôt dans le jardin de la fleur, quoi. Donc c'est ça aussi qui est bien. Un jardin, je pense, à mon avis, bien conçu, c'est un jardin qui a de la fleur toute l'année, même l'hiver.
Alors là, vous avez du lys. Ouais, du lys, que je ne me trompe pas. Pareil, une variété qu'on trouve chez les fleuristes particulièrement. Je ne pense pas qu'on en a dans le jardin, de souvenir. C'est une fleur qui a des étamines qui tachent, qu'il ne faut pas toucher. D'ailleurs, les fleuristes la taillent parce que sinon, il y en a avec leurs vêtements blancs, ça part pas. C'est une fleur pareille à l'aspect, c'est une fleur simple, c'est pas une fleur double comme on peut avoir avec les dahlias. Les boutons floraux sont assez gros, la fleur en elle-même aussi, comparé au feuillage et au reste de la plante.
Donc le lys, oui. Leur emblématique. Donc c'était. Bon, là, c'est plus connu pour la fleur des rois. Quoi.
Un intérêt floral, dans le sens. Les étamines, fleurs en étoile. Oui, intéressant.
Une fleur qui a une symbolique assez forte, hein, fleur des rois, mais elle n'est pas que ça. Elle est origine, je crois, depuis plusieurs siècles de beaucoup de symboles, comme l'étoile de David, tout ça. Enfin, c'est vraiment une fleur, c'est vraiment emblématique de beaucoup de religions et même d'États. Et c'est en plus une super belle fleur, quoi. Alors après, son parfum est partagé, parce que c'est quand même très, très puissant. Donc effectivement, bon, quand on en a un dans l'appart, on n'a pas besoin de bougie odorante, hein, ça c'est clair. Mais sinon, c'est une plante qui est quand même de culture facile, quoi. C'est du bulbe. On met en terre et on laisse pousser, quoi.
Rosa rosacée. Ah, là, c'est pas une fleur simple. C'est une fleur... mince, j'ai perdu le nom technique, excusez-moi. Une double, je dirais, une fleur double. Parce qu'elle est, elle a plus de pétales. Et ça pique. Ça m'évoque que ça pique. Quand on va aller tailler les boutons floraux, ça va piquer. C'est pareil, c'est une rose assez courante, celle-ci. C'est pas une rose... J'en vois souvent.
Alors les roses, bah c'est plus pour les fêtes déjà, ça me... Et puis pour l'amour, un signe d'amour quand même. Rose rouge, ouais, le parfum. Rappelle aussi l'odeur de madame.
C'est clairement aussi une fleur symbolique pour nous jardiniers, hein, plus de 35 000 variétés. Hein, donc vous voyez qu'après les orchidées, je crois que c'est ce qu'il y a le plus. Même moi j'en suis assez amoureux. J'essaye de pallier plutôt rose, beauté et parfum. C'est vrai que les nouveaux hybrides, on a fait des roses de couleur absolument dingue. Mais quand en plus, elles peuvent sentir bon, je pense que c'est un retour. Les gens ont besoin de ça aussi quand même dans le jardin, ça c'est clair.
La rose, c'est un domaine, enfin, comme d'autres fleurs, bien particulier. Parce qu'en fait, au départ, c'est l'églantier à l'état sauvage. Après, c'est la manipulation, entre guillemets, la main de l'homme qui fait qu'on obtient des fleurs plus importantes, avec plus de parfums. Voilà, c'est des recoupements, des essais, des expériences. Hein. C'est un peu... C'est ça, le truc.
C'est souvent relié à nos grands-parents. Fleurs des anciens, ça. Beaucoup. Je pense que c'est, en général, c'est... les gens vont vous parler de ça. Chaque fleur, je dirais en général, comme tout à l'heure on parlait, les roses, ça appartient à une histoire. Les lys, c'est une histoire aussi.
Un peu, ça pourrait être un canevas. Ouais, un petit côté kitsch, rococo un peu. Hein. Après, en bonne santé, hein, le feuillage est nickel, il n'y a pas de maladie dessus. Enfin, voilà, c'est mémé en bonne
santé. Ça, c'est vendeur, ça. Mémé encore en forme. Vous voyez, le jardinier a encore de l'humour, nous.
Batia Sutter, polymorphe orchide. Orchide ou orchide, je ne sais pas comment vous voulez que je le prononce.
Celle-ci, je vais la laisser pour Jeanne-Marie.
Ça, je n'arrive pas à savoir exactement ce que c'est. Je pense que c'est un odontoglossum bictoniensis, mais je n'en suis pas sûre.
Regardez, si vous voulez, j'ai des... Pour être sûre, je ne voudrais pas vous raconter des bêtises. Elles se ressemblent tellement des fois que, surtout avec les hybrides modernes qui nous sortent aujourd'hui. Alors, c'était Odontoglossum, mais ça doit être Rossio, parce que ça change tout le temps de nom.
Là, on pourrait penser alors soit une araignée, soit une lance vaudou, juste comme ça. On peut aller dans l'interprétation visuelle.
Alors, le rossioglossum, il est où ? Est-ce que je vais l'avoir ? Oui, il y a un rossioglossum, mais pas le bictoniensé. Où est-ce qu'il est encore à Odonto ? Ça peut être un hybride, mais ça ressemble à Odontoglossum bictoniensé, mais
mais je ne veux pas vous dire c'est ça, sachant que j'en suis pas sûre. Alors la photo est en noir et blanc, donc c'est un petit peu compliqué, mais si c'est celle que je pense, en fait, elle est un rouge sang et blanc. Alors toutes les orchidées, les fleurs d'orchidées, ça va être 3 sépales et 3 pétales. Donc les sépales, on les reconnaît facilement parce qu'ils sont tous les 3 pareils. Bon, sur la photo, ça paraît pas évident, mais on distingue quand même que c'est la même chose. Et 3 pétales, dont le troisième en forme de labelle.
Ça fait penser à une araignée. Impressionnant. Et je pense qu'ils l'ont mis en noir et blanc exprès. Parce que ça flash encore plus. Effet papillon. Ouais. Belle symétrie.
Un test de hors-char, éventuellement.
Oui, parce que ça nous parle, c'est un végétal, donc c'est vivant, donc on est toujours dans l'interprétation. La fleur, c'est de l'art aussi, donc il faut extrapoler un peu son visuel et travailler.
Dans les orchidées, c'est souvent apparenté à des insectes, enfin voilà, on peut y voir beaucoup de choses, hein. C'est des simulations de la nature, justement, pour attirer éventuellement des pollinisateurs, ça fait parler de cerveau reptilien, tout ça, donc ça nous ramène forcément à nos bases d'humains, entre guillemets, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon interprétation, puis c'est aussi le plaisir qu'on peut avoir à travailler dans ce cadre-là, quoi. C'est qu'on est en contact direct avec, entre guillemets, nos origines.
Et ça nous fait travailler l'imaginaire aussi. Oui. Le jardinier, c'est pas qu'un métier, on coupe des fleurs. On s'émerveille aussi sur certaines choses. Ça nous parle, c'est du visuel, c'est du vivant, du concret.
Étienne Pressager, Pensée et yeux, mardi 20 octobre 1998.
J'aime beaucoup celle-ci. Parce que là, on peut voir un visage. Des yeux avec un chapeau. Si on extrapole, on peut faire mon chapeau avec un chapeau élégant. Une tête de femme. Belle photo.
Une certaine sérénité, puisque les yeux sont fermés. Donc c'est une espèce de calme, d'apaisement. Ouais. C'est serein.
Non, c'est parlant, ça. Faut la garder, celle-ci.
Alors ça me rappelle les images qu'on voyait dans les cuisines avant. Où c'était C'est un iris, ça. Des fleurs d'iris. On voyait dans les cuisines avant pour faire les coupes ou les quand il n'y avait pas encore la photo, je pense. Il y avait beaucoup de dessins comme ça, souvent issus de la botanique. Et là, c'est marrant, si on voit des yeux dans le tableau. Alors ils sont fermés, ils ne nous regardent pas, mais avec un encadrement qui rappelle un peu le fond des yeux. Alors les yeux, ça. Un regard fermé comme ça fait toujours un petit peu. On se pose un peu de questions. Hein, pas inquiétant, mais à la limite, c'est nous qui avons envie de regarder l'image et puis on n'a pas trop envie de se faire regarder. Quoi.
Ah oui, effectivement. Pensez les yeux. Mais moi, je vois des piquants hein, quand même. Hein. Donc, attention. Hein. Faut faire attention. Qui s'y frotte, s'y pique.
Pour avoir de temps en temps feuilleté de vieux livres, c'est vrai qu'il y avait des beaux dessinateurs quand même.
Magdi Senadji, Bovary.
Que dire là? On ne sait pas trop. Peut-être une rose. Peut-être une rose. Ça peut être beaucoup de choses. Peut-être un jacobinien. Du coup, là, l'entourage noir ressort vraiment le. Là, on est dans le chamallow, là, on est dans le 19e à fond, là. C'est vraiment une couleur typique pour vraiment les candies, là, ça c'est clair.
Alors ça ressemble un peu à des pétales de pivoine, mais j'en suis pas certain. On voit un ensemble de pétales dans un encadrement noir, ça fait assez cossu, ça peut être un rosier. On a du mal de voir un petit peu. Ça peut être un rosier comme ça peut être un dahlia aussi. Ça fait un peu des pétales.
C'est un mélange de pétales, non? Quelque chose de bien protégé, un nid douillet, où voilà, il y a des cachettes partout, c'est super. mellifère, on va dire. Ça peut abriter nos petites abeilles pour qu'elles nous fassent notre petit miel. Par exemple.
Pas flétri, j'ai du mal à... J'ai du mal à dire le mot. Oui, c'est ça, c'est des copeaux. Des copeaux de peau, Ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien. C'est dans ce sens-là. Hein. Ouais, c'est dans ce sens-là. Ce qui est bien, c'est que c'est dans ce sens-là. Hein. Oui, et puis à la fois des orifices, photos en très gros plan, peut-être d'une fleur de pivoine ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, le fait de. Comment dire, de changer la vue qu'on a sur les choses, le fait de peut-être d'une macro-photo ou de choses comme ça, ça rend l'objet intriguant. C'est organique, c'est maternel, vaginal. Ouais, c'est assez... ouais, c'est érotique, hein. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Ça donne envie d'aller y mettre ses mains, quoi.
Sanacanisto, Aristochia, Gorgona.
Donc, je ne sais pas ce que c'est comme plante, ça me fait penser un peu à la feuille des haricots. Mais ça fait plutôt un... Je sais même pas dans quel sens qu'elle se prend.
Oui, il y a un tableau de Dali avec... qui... C'est une citation à Dali, ça, ou vous savez pas ?
Ça peut être plein de choses, hein. Vous voyez, c'est un peu les insectes, c'est un peu...
Un carnivore, ça. Mmh. Oui, c'est encore des stratégies de la nature pour, pour pouvoir subsister.
Oui, enfin, mmh. Quelque chose de surréaliste, finalement, avec quelque chose de... Avec quelque chose de naturaliste, quoi. C'est plutôt sympa.
La plupart des orchidées soit imitent l'insecte pour se faire polliniser ou pour pas. Oui, ça c'est un aspect des plantes qu'on connaît bien chez nous. Aristoloche. Alors typiquement, c'est vrai que moi qui est fan un peu de fantastique, on pourrait croire presque à des aliens. Hein.
Ah mais Aristo. Il y en a une dans le couloir. D'ailleurs, oui, elle se tient comme ça. Si en fait c'est une plante. Une plante grimpante, ça c'est les fruits, et c'est assez, ça fait des fruits, on a l'impression qu'on va pouvoir les casser à la main, comment dire, un peu comme le physalis, vous connaissez le physalis, l'amour en cage, ça donne un peu le même, ça fait un peu comme une coque pleine d'air. On a l'impression aussi d'une nymphe de papillon.
Alors, aussi. Ça c'est repli sur soi, cocon, fœtus, voilà.
Alors la sélection musicale du jour, deux titres qui parlent de jardin, deux titres très différents qui aurait en commun peut-être de parler du jardin comme métaphore, disons, c'est-à-dire la manière dont les éléments qui composent le jardin seraient à l'image des éléments qui composent le monde cosmique, politique, spirituel, etc. Le premier titre s'appelle Moss Garden. Il a été enregistré par David Bowie et Brian Eno en 1977, à quelques dizaines ou centaines de mètres du mur de Berlin, dans un studio là-bas. Donc c'est une référence directe au jardin zen japonais, le jardin de mousse étant l'un des types de jardin zen, quelque chose comme ça. Et il y a, c'est un morceau de ce qu'on appelle l'ambient music, qui est une musique d'ambiance. Donc c'est quoi ? C'est une musique censée produire des ambiances. Donc en gros, on pourrait dire produire de l'espace et du temps. Bon, c'est une certaine manière d'occuper l'espace et le temps. Et on pourrait dire que c'est la même chose que faire un jardin. Et donc là, on va écouter cette pièce d'ambiance, des synthétiseurs, du koto, donc un instrument traditionnel japonais par-dessus, et au loin, comme une menace du bruit d'un missile ou quelque chose qui viendrait faire grincer l'image. On écoute. Thank you.
Retour au pavillon du 17e, au Jardin des Plantes, où sont notamment présentées deux œuvres de Joachim Koester. Nous avons échangé la semaine dernière par téléphone avec lui. Il nous présente deux photographies.
I think if you just see him, you would probably just probably see him as two photos of plants. It would take you a while before you would actually find the mantis because they are quite good camouflaged. And often when people, I actually have them hanging in my living room myself. And often when people come and even if I tell them there's a mantis there, it does take a while. It differs, but often it takes a while before people recognize the insect itself, and they're just usually amazed by two things. Firstly, of how well it's camouflaged, but also how strange it looks, because praying mantises are really like some really strange little creatures. I think that there are two photographs from a series, so I wouldn't call it a diptych. They could be seen individually, but it's a series that I've continued working on. And the parameter of the series is more or less the same. Like I set up a kind of environment. They're done in a studio, in my studio here in Copenhagen. And I set up an environment and I breed the mantis. And then at one point we put it all together in the studio and take some photographs. If you just take those two, the Diabolica and the Ghost Mantis, they're very different look. And that's also, I mean, they look a little bit like aliens. And in fact, the image we have of aliens, of people who come from, or beings who come from outer space, are very much informed by mantis. The alien in Ridley Scott's Alien films is also mantis inspired. So the classic image of an alien is really derived from a mantis. It's the first time I've done it in this way. I've been interested in plants before, but it's the first time and definitely the first time I've worked with insects. And it started with me just seeing a photo of a praying mantis and just getting really fascinated. And then, you know, I started looking around on the internet, and I saw more and more of them, and I became gradually more and more fascinated. And I also found out that they were, in fact, the inspiration for outer space creatures, you know. So it just added up. And at one point I decided to get some. So I at one point, I think I had like eight praying mantises in my studio, because I would have to. They're quite small, and some of them, they just becomes more characteristic when they mature. So they have to. Usually, I have them, you know, from when they're like a month old and until they die. That's more or less 8 or 9 months after. So one is called Edelmantis diabolica, and it has a kind of a demonic look, and the other one, the ghost mantis, is very ghostly to look at. So I think that's also special about these, that we give them kind of names that are closer to something like half human, right? I mean, something diabolic is from the human realm, just like something that is ghostly is also from our realm, so to speak. But both names are like you know, almost like supernatural names, like ghosts and demons. So that's also something that is special for praying mantises, that they seem to attract these kind of names, and that we invest them with these kind of qualities, because they just look so strange. As you know, there's also a kung fu form, a Chinese kung fu form, that is called praying mantis. Which I think also looked at a lot and been fascinated a lot by a lot, and I think what is special about that style is that the praying mantis, the insect, almost becomes a vehicle to kind of unleash, to kind of find a hidden potential in the human body. So I think that's also a part of it. I think they have qualities, they can be invisible, they can blend in, they can move really fast, you know. So all these are things that we might want to do sometimes, at least, especially if you are like a kung fu expert.
Very silent.
They mimic leaves, so they have a kind of like the soon, if there's a little wind in the studio, they start to move like from side to side. So I associate them a lot with movement, and I associate them a lot with, since I worked a lot with performers, they're very easy to work with. They're kind of very adaptable. Sometimes I could kind of model them into a posture by just little poking it like very gently, and it would move. They would move their feet or their arms, or that they're not called arms when they're insects, but they would just kind of get into position. So in that sense, they're not like normal insects, which are more mechanical. Normal insects have a tendency to do the same all the time, but these seem to respond. They seem to be quite curious about humans as well. They would often turn their heads when I would come into the space. So more like a little dog or just a little strange creature.
Avec nous, Véronique Souben, directrice du FRAC Normandie-Rouen, et Julien Gossens, directeur du Jardin des Plantes de Rouen, qui vont partager avec nous une visite croisée de l'exposition Flower Pictures.
Donc l'exposition Flower Pictures, qui s'inscrit dans le focus du FRAC Normandie-Rouen, focus hors les murs. Cette année, c'est sur la métropole rouennaise. Donc on a plusieurs lieux, dont un gros projet au Musée des Antiquités, et puis le Jardin des Plantes, qui a été un peu la première collaboration que l'on fait, parce qu'avec le Jardin des Plantes, on est voisins. Le FRAC se situe absolument en face au Jardin des Plantes, et qu'il s'agit de deux institutions qui sont deux collections. En fait, puisque le Fonds régional de l'art contemporain, c'est un fonds, c'est une collection. Et même si ça ne paraît pas, ça ne saute pas aux yeux pour le Jardin des Plantes, il en est de même, on reviendra sans doute là-dessus. On a réfléchi ensemble pour montrer dans le pavillon du 17e tout un ensemble d'œuvres du FRAC autour de la notion de fleur, du motif floral. Et l'exposition part vraiment d'une des dernières acquisitions importantes du FRAC, qui sont les fameuses Flower Pictures de Hans-Peter Fellmann, trois photos de taille gigantesque qui représentent des fleurs surdimensionnées, en fait des fleurs issues de magazines que Hans-Peter a collectionné, comme il sait le faire de manière frénétique, des années 50, et qu'il avait souhaité en fait redéployer, réagrandir comme ça de manière un peu monstrueuse, en même temps magnifiée et monstrueuse, hein, il est toujours entre ces deux versants, pour finalement refabriquer dans son propre studio avec un artiste, remettre en scène complètement, comme on fait dans un studio de cinéma, ces fleurs en question. Donc toute l'exposition est partie de ça, de la manière dont on représente la manière dont la fleur, qui peut être un motif un peu joliesque et un peu naïf et un peu ou académique, je dirais, comment les artistes, et on en a un certain nombre dans la collection, vont complètement repenser, détourner, critiquer ou pointer la manière dont on crée, on représente en fait l'espèce florale, le motif de la fleur, voilà, avec plein d'approches différentes qui sont ici un peu déployées dans un accrochage assez dense d'artistes autour de ce motif sur différentes périodes des années 90 à nos jours. Donc il y a un mélange qu'on observe qui est assez intéressant avec cette façon de cultiver l'ambiguïté, ou en tout cas d'aller dans des sentiers, de défaire les sentiers en fait académiques de la science aussi en œuvrant dans le domaine artistique. Et la collection commence un peu à rendre compte, quelqu'un comme Joachim Koester hein, se plie complètement à ce jeu. C'est un artiste qui joue beaucoup, qui mélange à la fois tradition moderniste, tradition scientifique, avec toutes les histoires parallèles sur le chamanisme, le tantrisme, il a fait beaucoup de choses sur l'hystérie notamment. Et ici, ce qu'on voit, les Ghost Mantis, en fait, c'est une série assez récente qu'il a réalisée. Le FRAC l'a acquis, en fait, au moment où il a débuté cette série. qui est toute récente, où il s'est intéressé au phénomène de la menthe religieuse. C'est un secte qui est vénéré dans beaucoup de civilisations pour à la fois son côté noble, sa pose de religieuse, comme ça, les mains jointes, et puis le fait qu'elle, ce cannibalisme, le fait qu'elle mange ses amants une fois la copulation en fait effectuée. Et ici, en fait, il prend en fait tout l'éthique. On le revoit dans d'autres travaux, comme Sana Canisto, notamment, ou Étienne Présager, qui aime mélanger les genres et reprendre en fait tous les codes et les modes de l'approche scientifique, donc extrêmement précise, qu'il applique ici pour ces espèces venues d'Afrique. Alors, j'ai plus en tête exactement la généalogie de ces animaux, mais celle-là, c'est Gosmanthi, c'est montre religieuse. Elles viennent de deux régions différentes et elles ont deux manières. Elles ont des espèces d'escroissance comme ça sur les pattes, une couleur brune, un peu vert-brun, qui fait qu'elles se confondent complètement avec l'environnement. C'est même c'est d'autant plus fascinant. Il n'y a pas de rapport scientifique finalement, ni de protocole scientifique par rapport à l'animal. Il y a juste un rapport de fascination et puis surtout ce jeu sur le zoom qui est extrêmement important. C'est un jeu quasiment cinématographique où il y a le flou derrière, le précis devant, et plus le focus est précis sur le motif de la fleur en question, et moins on voit l'animal en fait, plus l'animal se confond dans le décor. Il y a tout cette espèce de jeu ambivalent.
D'un point de vue scientifique, c'est le sujet de l'interaction entre les animaux et les plantes. Je le ressens comme ça à travers cette œuvre, c'est effectivement cette interaction. Nous avons longtemps dans les sciences naturelles tout fragmenté, mais aujourd'hui on est vraiment à on entre dans une nouvelle grande période de vision sur les sciences naturelles, et vraiment ces sujets de discussion entre les végétaux, de tromperie. Il faut savoir que les plantes trompent les insectes, et ça c'est assez fascinant. Et finalement on ressent ce sujet dans cette œuvre. Pour moi, c'est qu'effectivement la plante et l'insecte sont presque indissociables.
Et donc de ces images, je dirais un peu cinématographiques, aussi à la fois scientifiques et cinématographiques, on a comme ça toute une section de photos, de déclinaisons, avec des approches, je dirais, des genres carrément différents, c'est-à-dire du genre de la science, on passe au genre cinématographique, au genre romancé, et puis au genre cinéma, à nouveau cinématographique, je dirais, avec David Zera. Donc là, les plantes que l'on voit de Pearson, Jack Pearson, artiste américain. Alors, il faut savoir, le support est important parce que ce sont des polaroïdes qu'il a créés dans les années 90, sachant que Polaroid, dans les années 80, invente le pola grand format. Beaucoup d'artistes conceptuels américains s'en sont emparés justement pour flirter avec le tableau, la forme tableau. Le polaroïde crée le rapport à l'instantané, donc il y a la valeur d'instantanéité, notamment d'images fugaces prises à la dérobée, et puis en même temps le format moyen ici et nous renvoie au format tableau. Alors là tout se joue dans le titre parce qu'en fait c'est, pour le dire exactement, c'est windowbox@outdoorshower. Donc en fait ce serait une image qui serait prise de la douche en fait dans une sorte de boîte vitrine. Alors, en même temps c'est une photo qui a un peu l'esthétique, je dirais, du road movie. Qui est aussi entre l'image romantique de l'errance, voilà, revue à la sauce américaine du road movie. Là, pareil, il joue aussi sur le focus près, loin, flou. Et là, c'est l'inverse de Joachim Koester, puisque le flou est devant et le précis est derrière, en fait, sur les plantes. Et donc, au bout d'un moment, on voit en fait les plantes qui apparaissent derrière ce pan de bois, comme ça, comme s'il s'agissait de plantes sauvages. C'est au bout d'un moment qu'on comprend ces fleurs et que ces fleurs sont précisées. Voilà, dans une esthétique de l'image volée, de l'image dérobée qu'induit le polaroïde notamment.
Et dans ta réflexion, le côté l'instant de cette photo, de ce moment, c'est intéressant car lorsque l'on travaille le végétal, lorsqu'on travaille avec, c'est le moment, on est sur une sorte de temporalité très trompeuse puisqu'effectivement il faut travailler, effectivement il faut penser ce qui va se passer dans quelques mois. Dans la plante, elle vit sur un autre rythme. Mais c'est aussi l'instant qui n'est jamais le même. Qui n'est jamais le même lorsqu'on travaille avec les végétaux. Car une plante, lorsqu'on la regarde, elle va être différente chaque jour. Et à chaque heure de la journée, suivant la lumière, son orientation. Et chaque saison, la même plante va adopter une autre forme. Donc, et ça, c'est intéressant car à travers cette œuvre, on voit l'instant qui est pris sur ce focus de végétal, mais finalement qui sera sans doute plus du tout le même quelques instants après. Voilà. Et ça, c'est assez fascinant.
Avec l'idée aussi de mettre en avant une certaine banalité.
Oui.
On va retrouver chez Zera, sauf que Zera, lui, veut magnifier, magnifie la banalité, ou en tout cas, lui redonne une seconde aura, alors qu'ici, Pearson utilise vraiment la mauvaise qualité, la banalité, pour créer quelque chose de fascinant, en même temps, quelque chose, je dirais même aussi, assez cinématographique, finalement.
Et alors, ce terme de banalité est intéressant, car les plantes sont aussi soumises à l'effet de mode. Et parfois, voilà, on a une plante qui est très, très à la mode, très, très en vogue, et puis d'un seul coup, paf, elle devient banale, et puis elle disparaît. Voilà. Donc c'est intéressant ce parallèle également.
C'est du coup peut-être ce qu'on verra avec David Zera, la rose dont tu me parlais, qui est cette fameuse Queen's Croquette, et qui, tu me disais, voilà, qui était une plante des années 50, 70. Hein.
Oui, c'est cette forme de rose, finalement, qui rappelle un peu le jardin de nos grands-mères. Hein. Ça fait appel à ça pour beaucoup d'entre nous. Cette forme de rose qui est un peu tombée en désuétude, effectivement, on la conserve ici, encore, au Jardin des Plantes, dans la roseraie. Et elle est assez fascinante aujourd'hui parce qu'elle se positionne différemment. On en parlait tout à l'heure lors de notre première discussion. J'ai eu, moi, l'occasion de suivre des gens qui, à travers la campagne, sont devenus des vrais chasseurs de ces roses, qui, finalement, ne sont plus commercialisées, on ne trouve plus ces roses, c'est difficile de les trouver. Mais aujourd'hui, il y a encore des personnes qui les cherchent dans des jardins abandonnés, et ils vont toujours dans ce souci de collectionner. Donc, il y a une relation vraiment à l'œuvre, hein, finalement. La plante devient une œuvre vivante. Et ça, vraiment, c'est cette rose, elle tombe aussi. Enfin, c'est la banalité, c'est la désuétude, et c'est assez bien rendu. C'est assez frappant. Mais.
Alors, ce qui est marrant chez Zera, c'est justement parce que c'est quand on comprend d'autant mieux quand on connaît un peu plus largement son travail. C'est quelqu'un qui vraiment photographie toutes les choses du quotidien, les choses banales. Il y a cette approche, voilà, de contre-plongée, de vue, de pris d'en bas comme ça, avec le fait d'accentuer sur la lumière. Donc il y a une espèce de lumière sublime là, qui vient frôler le sommet des roses et qui leur donne comme ça un côté, je dirais, cinématographique, une sorte d'aura, la fameuse aura que la photo aurait perdue, voilà, qui se recrée en fait par ces effets de lumière. Et qui, avec, comme je disais, presque une image quadrichromique, en tout cas très chromique, je ne sais pas si on le dit, de pur bleu du ciel, du rose, et puis du vert, hein, en fait, très peu, enfin, trois variations de couleurs. Alors peut-être je vais revenir sur l'image de Bovary, parce qu'entre les deux, on a une approche littéraire de Senadji, avec une esthétique qui n'a alors, rien à voir, et qui est même à l'opposé, je dirais, d'esthétique de Hans-Peter Feldmann, dont on parlait au tout début, artiste iconographiste, si on peut le dire, qui a une approche conceptuelle, critique en même temps, et en même temps assez profonde sur notre société, sur l'image. Senadji, approche complètement romantique. Au contraire, là, cette image est issue d'une vaste série qu'il a réalisée en 2000, un peu avant 2000, où il a arpenté en fait toutes les régions profondes, campagnes profondes de la Normandie, à la recherche de l'histoire de Madame Bovary, de Flaubert, et photographié aussi toutes les vieilles traditions qui perdurent encore. Donc parmi ça, il y a des traditions, des hommes, des femmes qui photographient, et puis il y a comme ça des motifs, dont cette fleur avec un côté très pictural, artistique. Et puis c'est l'opposé de Koester, puisque lui, il fait le contraste au contraire entre l'insecte qui va butiner la fleur et la rose, avec ce ultra focus sur la rose et le flou total derrière du vert qui vient sublimer la précision du cœur de la rose. Et cet insecte vraiment au centre, voilà, qui vient comme une sorte de trompe-l'œil, voilà, dans une approche aussi très romantique, une image très esthétique et très romantique. Donc là, on est vraiment sur une autre histoire, une autre tradition de la photographie et de l'image.
Finalement, on est aussi sur une autre tradition du jardinier. Là, on est loin de la botanique, on est sur l'horticulture. Et voir la fleur comme un objet esthétique, purement et simplement esthétique, et finalement l'insecte, on a plutôt l'impression que c'est un bijou posé sur cette rose, finalement, qui viendrait agrémenter juste la fleur comme un objet sublimé.
Et Présager, ça c'est toute une série en fait, faite sur le mode du Kadarevski, le mode surréaliste, où il s'inspire des planches botaniques, en fait, et reprend comme ça, de manière très précise, il pastiche complètement l'approche scientifique du dessin. Et, sauf que lui, il les transforme, voilà, il rajoute des yeux, il rajoute des éléments anthropomorphiques, et qui fait qu'il y a un côté assez monstrueux, comme une sorte de masque qui émane du fond blanc, en fait, le fond blanc qui prend carrément forme, comme une sorte de recouvrement du visage.
Et oui, les planches botaniques qui longtemps, effectivement, ont été le seul moyen de pouvoir faire partager ce patrimoine végétal, puisque les planches botaniques, c'était, on ne pouvait pas ramener tous les végétaux, bon, c'était pas possible, surtout certains végétaux tropicaux qui ne pouvaient pas vivre sous nos contrées, on les dessinait, on pouvait... C'est encore ce que fait Francis Allais, hein, ce grand botaniste français, la plupart de ses dessins sont finalement adoptent une technique ancienne du 18e et du 19e, et c'est assez fascinant parce qu'on est sur un travail scientifique. Et ici, dans ces œuvres, c'est à la fois effectivement mêlé ce travail scientifique, puisque la fleur là, est extrêmement bien représentée, on comprend comment elle fonctionne, on comprend la biologie du végétal. Puis derrière, il y a cette mise en parallèle avec ce regard là, qui vient nous percer.
Alors peut-être aussi pour terminer, parler de cette œuvre de Batia Sutter qui est emblématique aussi du Jardin des Plantes, parce que là il y a un lien très fort qui se crée, puisqu'il s'agit, Batia Sutter, elle est présentée dans la salle avec Hans-Peter Fellmann, artiste de génération beaucoup plus jeune, mais qui s'intègre complètement dans cette génération d'artistes iconographes, c'est-à-dire d'artistes comme ça qui collectionnent de manière compulsive toutes sortes d'images pour s'en resservir comme matière première, pour s'en resservir dans leurs travaux. Batia Sutter s'est fait connaître notamment pour des encyclopédies, des vraies fausses encyclopédies qu'elle a concoctées. Et là, cette image qu'elle a créée, qui est une impression offset, en fait, ce sont une image d'orchidée, mais de plusieurs images d'orchidées. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a superposé comme ça des images vintage, les unes sur les autres, et ce collectionnisme aigu qu'elle a autour de l'image, évidemment, s'intègre complètement, se condense complètement dans ce condensé de superposition où on voit aussi les taches des cartes postales vintage qui ont été trouvées, et on ressent, on voit les petits dédoublements qui se créent dans une plante qui est déjà en elle-même totalement fascinante.
Les orchidées, donc cette famille, hein, les orchidacées, c'est assez fascinant, car elles nous trompent en fait, elles nous trompent. C'est une forme d'intelligence, hein. Actuellement les botanistes travaillent sur ce sujet, hein, l'intelligence des végétaux, et là elle en est clairement la preuve. Elle adopte ce mimétisme, elle va tromper l'insecte en se faisant passer effectivement pour elle-même, pour un insecte, et l'insecte va venir la butiner, ce qui va permettre d'assurer cette reproduction. Et donc aujourd'hui, l'orchidée, ça reste un... Alors il y a ce côté fascinant, mais il y a un mystère aussi autour de l'orchidée, car pourquoi elle fascine autant? Pourquoi? C'est un insecte, c'est un bijou, c'est une fleur, après c'est beaucoup de choses. Et voilà, la preuve, on est aussi l'artiste focalise sur ce sujet, là c'est très bien, c'est très évocateur ici, là on est plongé dans cette fleur complètement surdimensionnée, c'est très beau, et ça prouve ce que cette famille peut représenter.
Une photographie d'orchidée conclut cette visite. Nous allons désormais rejoindre Jeanne-Marie qui nous a fait le plaisir de nous faire visiter son espace de travail, la serre où est conservée une importante collection d'orchidées au Jardin des Plantes.
Moi j'aime bien cette serre parce qu'elle est calme, on entend le bruit de l'eau. Elle fait à peu près une dizaine de mètres de largeur, elle doit faire 15 mètres de long, une hauteur de, on doit être à 6 ou 7 mètres, en pente évidemment de chaque côté. Il y a donc un bassin au milieu, un grand bassin au milieu qui fait 5 mètres sur 7 et 80 cm de profondeur. Tout autour, il y a des végétaux de plantés, beaucoup de crotons, Bucodium en latin, différentes plantes, pour justement garder toujours une ambiance humide pour les orchidées. Toutes les plantations qui sont faites dans les serres, dans les trois serres, c'est vraiment pour maintenir une certaine ambiance. Il faut toujours qu'on ait une hygrométrie d'un minimum de 60%, l'idéal étant plutôt les 80%. Et on monte allègrement à plus de 95-96% quand on fait le bassinage. Donc il y a un sol solide, mais avec des petites rainures qui permettent, quand on met de l'eau, que l'eau reste dans les rainures et que l'eau va s'évaporer au fil du temps et permet de toujours maintenir cette hygrométrie. Le bassin qui, lui, va évaporer effectivement et qui va amener de l'humidité, de l'hygrométrie dans la serre. Et puis des tablettes donc sur les côtés où sont posées les pots d'orchidées. Et au-dessus, dans les allées, puisqu'une allée fait tout le tour du bassin, il y a des paniers en suspension. Donc c'est des paniers d'orchidées, des vandas, entre autres, et quelques paniers de népenthes, donc plantes carnivores dont vous parliez tout à l'heure. Et en fronton, donc il y a un couloir qui permet le passage des visiteurs. Et ces visiteurs, en fait, ne peuvent pas rentrer dans la serre. Il y a une grille avec un grillage qui empêche les gens de rentrer parce qu'on a besoin de protéger notre collection. Alors, ça, c'est le thermomètre qui nous permet justement de savoir qu'actuellement, on a 33 degrés 1 et que c'est monté à 35. Et ça, c'est le thermostat antigel. C'est-à-dire qu'il est réglé à 10-12 degrés. Et si la température, suite à une panne de chauffage, surtout l'hiver, la nuit, descend en dessous de cette température-là, ça va déclencher une alarme qui va permettre, on est en télégestion, donc ça va permettre aux services concernés d'intervenir. Donc vous pouvez ressentir cette impression de chaleur, d'humidité. Là, on n'est pas loin de 35 à 36 degrés. Il fait vraiment très très chaud. Il faut un certain temps pour que le corps s'habitue à ces chaleurs-là. Au bout d'une semaine, on a un petit peu moins chaud. Mais vous qui venez d'arriver, ça doit vous sembler bien lourd. Et en fait, la collection du Jardin des Plantes est une collection très très ancienne qui a été donnée en 1936 à la ville de Rouen. Et son propriétaire est allé les chercher dans la nature, vraiment au tout début du XXe siècle. Et là, on a vraiment ce qui pousse à l'état naturel, ce qu'on appelle des botaniques. Donc on a le Stoneii ici, on a un Rothschildianum, Hirsutissimum, donc vous voyez vraiment des formes différentes. Les orchidées, ça oblige à avoir énormément de patience. Parce qu'entre le moment où le bouton floral apparaît et vraiment l'éclosion de la fleur, il peut se passer des mois. Donc en fait, je suis habituée à toujours à attendre, à voir ce que ça va devenir, une nouvelle fleur comme le Lowy qui fleurit pour la première fois. Je le connaissais en photo, mais je ne l'avais jamais vu en vrai, on va dire en vrai. Et puis nous, on taille très régulièrement, on arrache, on replante, on transforme. Donc c'est le travail au quotidien. Et c'est la nature de toute façon est changeante entre les différentes saisons, même si dans les serres tropicales, ça ne se voit pas trop parce qu'il y a toujours une température qui permet aux plantes de pousser en permanence. Mais quand on travaille dans la nature, on a l'habitude du changement. La collection comprend 70 genres d'orchidées différents. Donc le genre, ça va être genre Paphiopedilum, genre Phalaenopsis, genre Vanda. Donc on est à peu près à 70. Dans la nature, il en a été répertorié à peu près 30 000 aujourd'hui. Donc c'est vraiment une toute petite goutte sur tout ce qui existe. Les orchidées, on en découvre encore parce que bon nombre de pays qui étaient fermés, dont les frontières étaient fermées il n'y a pas encore très longtemps, aujourd'hui sont ouvertes et en tout cas les scientifiques sont autorisés, les botanistes sont autorisés à aller voir un peu ce qui se passe dans les fins fonds de campagne, de montagne, etc. Et on découvre donc de nouvelles orchidées encore aujourd'hui. C'est bien, c'est bien.
Un genre que j'aime bien, genre brassia, oui, j'aime bien. J'en ai pas en fleur, donc je peux pas vous le montrer. Mais c'est une orchidée, en fait, avec une hampe florale assez longue et qui ne monte pas tout droit, mais qui, au contraire, va avoir tendance à retomber. Et tout autour de cette... c'est une tige, en fait, la hampe florale. Les fleurs vont ouvrir de chaque côté. Et ce sont de grandes fleurs très étoilées, avec de grands pétales, de grands sépales. Et je la trouve très élégante, très... le souffle d'air va la faire bouger. Mais il n'y a pas que ça. J'aime bien aussi le Psychopsis papilio, qui... Ça, c'est une orchidée vraiment très sympa, parce qu'une hampe très, 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 très longue qui fait plus d'un mètre, avec la fleur en forme de papillon au bout, c'est très léger, et au moindre souffle d'air, on a vraiment l'impression que le papillon va s'envoler. Il y a des orchidées très, très chouettes, oui, vraiment très, très chouettes. Et ça sort des phalaenopsis qu'on trouve, sans citer les noms, les producteurs de plantes de toutes sortes. Oui, vous pouvez voir toutes ces différences d'orchidées. Enfin, c'est complètement différent entre le Phragmipedium, les Oncidium, le Paphiopedilum. Même entre Paphiopedilum, c'est différent. C'est joli, oui. Non, pas de parfum. Certaines sont parfumées, oui. Certaines sont parfumées, mais celle-ci, non. Même les feuillages sont complètement différents, les formes sont différentes. C'est un monde très intéressant, les orchidées. C'est la plante la plus évoluée du règne végétal. Elle est vraiment au sommet du règne végétal. Le pollen n'est pas du tout un pollen pulvérulent qui peut s'envoler par le vent. Ce sont des petites masses de pollinies qui vont se coller sur le dos des insectes. C'est un système un petit peu différent de pollinisation. Il faut vraiment des insectes bien définis pour aller féconder les orchidées. Les autres plantes du règne végétal, c'est le vent, c'est aussi les insectes, mais c'est le pollen s'envole et puis va féconder d'autres plantes. Ça peut pas se faire sur les orchidées. Il faut vraiment une intervention. Là, je vais vous faire voir une plante qui va très certainement vous intéresser. Bon, certes, ce n'est pas très radiophonique, mais c'est la vanille. Donc, vous avez un reste de fleurs de ce matin. Elle ouvre à 10h le matin à peu près et elle se referme à 14h. C'est très très court la période de floraison et on choisit cette période-là pour la féconder. On est obligé de la féconder, les insectes ne peuvent pas la féconder chez nous. Elle est originaire du Mexique et il n'y a qu'au Mexique que la petite abeille peut féconder la vanille. Partout ailleurs c'est fait à la main et ici également. On appelle ça une marieuse, les gens qui fécondent. Et ça marche, hein. Elle donne des gousses de vanille qui sont vraiment très 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 bonnes.
Pour conclure cette session au Jardin des Plantes, un titre du groupe Skip and Die, groupe sud-africain et néerlandais et qui mélange pas mal de nationalités et de langues différentes. Une sorte de parallèle politique très direct entre la discipline et l'indiscipline, entre le jardin d'un côté et la jungle de l'autre. Et là, on va conclure en allant clairement du côté de la jungle avec ce titre de Skip and Die, Riot in the Jungle.
The monkeys are on strike, cause leopard ate their bush baby. The working ants refuse to pay to save this lost economy.